France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Vienne est à nouveau frappée par le terrorisme. 6 attaques ont eu lieu hier soir dans plusieurs endroits de la capitale autrichienne. Il y a ce matin au moins 2 morts, des dizaines de blessés selon le bilan provisoire. La police recherche au moins l'un des assaillants qui aurait pris la fuite. Un autre a priori été abattu hier durant l'attaque. Parmi les réactions déjà, Emmanuel Macron qui écrit « Nous, Français, partageons le choc et la peine du peuple autrichien ». Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez précise que la haine ne fera pas plier nos sociétés quand, en Grande-Bretagne, Boris Johnson se dit profondément choqué. Après donc ces attaques qui ont fait une dizaine de blessés et au moins 2 morts hier soir à Vienne. Ce sont les dernières heures de campagne aux États-Unis. Le pays vote pour la présidentielle et avant le grand jour ce mardi, le démocrate Joe Biden a appelé cette nuit à reprendre le contrôle de la démocratie lors de son dernier grand meeting. Pour son ultime sortie, Donald Trump a choisi par superstition le Michigan, un état clé qu'il avait remporté il y a 4 ans à la surprise générale. La présidentielle en Côte d'Ivoire maintenant et la tension qui ne retombe pas dans l'attente des résultats définitifs. Des détonations ont retenti au domicile de plusieurs leaders de l'opposition sans faire de blessés. Le nombre de décès dans le monde liés au nouveau coronavirus s'établit à plus d'1 200 000 personnes. Le pays le plus touché reste les États-Unis, mais l'Europe est la région où l'épidémie progresse le plus activement, avec la 2e vague en ce moment. Sachez en France d'ailleurs que pour la première fois depuis le 20 avril, les hôpitaux ont enregistré plus de 400 morts à cause du Covid-19 ces dernières 24 heures. Pour ce qui est du confinement, le décret qui doit distinguer les produits de première nécessité des autres sera publié ce matin.
C'est la nuit américaine, ce mardi, sur France Culture. Pour vivre en direct l'élection aux États-Unis, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Frédéric Martel et l'équipe de Soft Power suivent le scrutin en live sur Twitter et Instagram. Pour tout comprendre de la situation aux USA et des enjeux mondiaux de l'élection, rendez-vous sur franceculture.fr pour retrouver témoignages, documentaires et débats. Et enfin, toute la nuit, France Culture vous propose d'écouter les voix de grands artistes, romanciers et intellectuels américains. Ils sont venus dans nos studios partager leur vision du monde et de leur pays. À l'écoute des grandes voix de l'Amérique, c'est toute la nuit sur France Culture.
Move. Samedi 7 novembre à 18h, Hip-Hop Symphonique saison 5 sur Move. Sous la direction artistique d'Issam Krimi, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Dylan Corley et The Ice Cream, accompagneront Loose and the Yakuza, Maes, Meryl, Passy et Soul King pour des versions inédites. Le Crédit Mutuel donne le la à Hip-Hop Symphonique 5, un événement Move en partenariat avec l'Adami, à vivre en direct samedi 7 novembre à 18h sur Move et en vidéo sur YouTube et sur Move.fr. Move, une radio de Radio France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, c'est l'heure du monde vivant avec Bruno David qui s'intéresse ce matin à un arbre qui pond des œufs.
Début novembre. Quelle est cette horrible odeur qui monte du sol? Une pestilence bizarre entre vomi et animal en décomposition. Si vous baissez la tête, vous verrez que cette odeur émane de sortes de petites boules orangées qui jonchent le bitume. Si vous levez le regard, surtout si le soleil est là, vous serez charmé par le jaune doré rutilant de feuilles bilobées. Ces deux extrêmes, dégoût et splendeur, sont dus au même arbre. Un individu femelle de Ginkgo biloba qui a pondu. J'y reviendrai. La cascade d'or qui vous surplombe a valu à cet arbre remarquable le nom d'arbre aux écus. Sa teinte dorée rappelant la couleur de l'or. Mais si cet arbre de 20 à 30 mètres de haut nous fascine, c'est d'abord parce qu'il illustre un fabuleux défi au temps. Un ginkgo arrive à maturité sexuelle entre 20 et 30 ans et sa durée de vie peut excéder 1000 ans. Celui d'un jardin botanique japonais est âgé de 1250 ans. Les ancêtres de sa famille, très proches du ginkgo biloba, ont d'ailleurs côtoyé les dinosaures. Cet arbre vénérable serait donc invincible. D'ailleurs, il n'a pas de prédateurs naturels, ni de parasites, ni de maladies connues. Les seules menaces qui pèsent sur lui pourraient être les incendies, les tsunamis, les tremblements de terre ou l'homme. Et encore, il fut la première espèce d'arbre à repousser dans la région d'Hiroshima un an après l'explosion de la bombe atomique. Un ginkgo biloba situé à moins d'un kilomètre de l'épicentre de l'explosion a d'ailleurs survécu. Bien que calciné, une pousse est repartie de sa souche. Arbre de pays tempéré, le ginkgo biloba est originaire des montagnes du sud-est de la Chine, où il a été protégé par les moines bouddhistes du XIIe siècle. Exporté au Japon, sa feuille est devenue le symbole de la ville de Tokyo. Le premier ginkgo planté en France est installé en 1778 à Montpellier. Une bouture de cet arbre arrive en 1795 au Jardin des Plantes du Muséum. Les deux arbres sont toujours vivants aujourd'hui. Cela atteste que cette espèce est très résistante aux pollutions. Elle est d'ailleurs devenue un ornement de nos villes enfumées. Le ginkgo est aussi une curiosité botanique. L'espèce est dioïque. En clair, il existe des pieds mâles et des pieds femelles, qui d'ailleurs n'ont pas exactement la même morphologie générale. L'acquisition des réserves de l'ovule se fait avant la fécondation, et la fécondation a lieu après que l'ovule se soit détaché de l'arbre. Bref, le contraire de ce à quoi nous sommes habitués avec les plantes à fleurs. Au Japon, le ginkgo est surnommé l'arbre pondeur, à cause de la similitude de ses fruits, les ovules des pieds femelles, avec des œufs. À ce sujet, un dernier conseil. Ne stationnez pas sous un ginkgo femelle à l'automne. Lorsque les ovules mûrs tombent, ils synthétisent de l'acide butanoïque, à l'origine de l'odeur de vomi. D'ailleurs, dans les villes, on plante surtout des pieds mâles afin d'éviter ces odeurs nauséabondes. Des odeurs qui attiraient peut-être les dinosaures, mais ce parfum est passé de mode.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio dès la fin du couvre-feu ou quand vous voulez en passant par l'écoute en différé ou l'abonnement au podcast disponible sur franceculture.fr ou dans l'application de Radio France. Aujourd'hui on va parler de l'hypnose et de la fascination qu'elle exerce sur les artistes depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. L'exposition Hypnose, actuellement au musée d'art de Nantes, est à visiter jusqu'au 31 janvier et pour nous en parler, le commissaire de l'exposition, l'historien de l'art Pascal Rousseau. Bonjour Pascal Rousseau.
Bonjour.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Hypnose et perte de soi. Hypnose et magnétisme. Hypnose et somnambulisme. Hypnose et médecine. Hypnose et extase. Hypnose et art.
Pascal Rousseau, vous êtes professeur d'histoire de l'art à Paris, à la Sorbonne, spécialiste des avant-gardes historiques et des débuts de l'abstraction, des liens entre imaginaire, science et technologie dans la culture contemporaine. Vous avez été le commissaire de quelques expositions que nous avons beaucoup aimées ici sur France Culture, surtout ceux qui ont un peu notre âge, comme Robert Delaunay, de l'impressionnisme à l'abstraction, c'était au Centre Pompidou en 1999, mais sinon il y a eu aussi aux origines de l'abstraction au musée d'Orsay, sous influence résurgente de l'hypnose dans l'art contemporain. Déjà, c'était au musée des Beaux-Arts de Lausanne en 2006. Et puis, Cosa Mental, les imaginaires de la télépathie dans l'art du XXe siècle au Centre Pompidou-Metz. Ça, c'était peut-être votre dernière exposition avant celle-ci, consacrée à l'hypnose.
C'était le premier volet quasiment, volet d'un duo en fait. Les expositions de Metz et de Nantes se répondent en fait. La première était consacrée consacré un sujet peut-être encore plus interlope que celui de l'hypnose, donc la télépathie, une sorte d'analyse des imaginaires en définitive de la télépathie et ce qu'ils ont fait à l'art en fait, et en particulier à l'art du XXe siècle, obsédé par la dématérialisation. Et puis là, l'idée, c'était de continuer sur les cultures psychiques, je vais les appeler comme ça, et d'interroger un autre lien qui me semblait alors là beaucoup plus solide, sur une durée un petit peu plus longue, qui allait en fait de la fin du XVIIIe à aujourd'hui et qui essayait d'interroger justement les relations entre l'art et l'hypnose.
Et vous êtes l'auteur de ce livre qui sert aussi de catalogue de l'exposition « Hypnose, art et hypnotisme de Mesmer à nos jours ». On va peut-être commencer par expliquer qui était ce Mesmer.
Donc en fait l'idée c'est de partir là où a commencé cette aventure dans le monde occidental, puisqu'on pourrait se dire l'hypnose, après tout on a des traces égyptiennes, des traces archéologiques en fait de cette relation particulière et de cet état modifié de conscience. Ce qui m'intéressait moi, c'était plutôt d'interroger en fait cette aventure dans la modernité et de voir que en histoire de l'art par exemple, la modernité, on l'origine toujours avec les débuts du romantisme, la fin du 18e. Il se trouve que en fait dans le champ de la psychologie, puisqu'il s'agit de cela, il apparaît en fait assez vite le terme qui ne prononce pas encore son nom d'hypnose. Il s'appelle magnétisme animal. Il va s'appeler ensuite somnambulisme artificiel et au début du 19e siècle s'appeler hypnose ou hypnotisme. Et tout ça s'origine avec un personnage très curieux. C'est un médecin qui vient de Vienne et qui fait fortune, on peut le dire d'ailleurs, dans son salon, invitant tout Paris à une cure magnétique. Donc il est intimement convaincu que tous les maux de l'esprit et du corps sont liés à une mauvaise circulation d'un fluide qui circulerait en définitive tout autour de nous. Il suffit simplement de le recharger, en fait, ce fluide dans le corps et dans les esprits pour pouvoir rétablir en quelque sorte la santé. Alors vous allez me dire, mais quel rapport entre cette thérapie du corps comme cela, de magnétisme? C'est parce que c'est que très très vite chez Mesmer, en définitive, tout cela se transforme en une sorte de dramaturgie des expressions, des crises, des convulsions, des corps qui s'expriment. C'est toute une en fait grammaire en fait de l'émotion qui très très vite va intéresser les artistes.
Est-ce qu'il va laisser des études qui aujourd'hui on peut les considérer comme scientifiques, ou est-ce que c'était un fou, un artiste perdu dans le monde scientifique, même s'il a eu cette sensation de pouvoir effectivement parler de l'inconscient et de travailler autour de l'inconscient?
Alors il a vraiment ouvert cette brèche. J'ai envie de dire c'est peut-être pas lui d'ailleurs qui a ouvert cette brèche. Ce sont plutôt ses disciples, les disciples qui arrivent très très vite et qui arrivent justement sur la condamnation de la médecine officielle. C'est-à-dire que donc Mesmer, avec son baquet, accueille tout Paris, et très très vite d'ailleurs la médecine officielle tombe sur lui, le condamner. 1784, les commissions disent mais il n'y a pas de fluide du tout. Tout ça est une médecine de l'imagination, tout ça se passe dans la tête des gens. Et on voit d'ailleurs apparaître, ce qui est très moderne en termes d'épistémologie des sciences, l'idée du placebo, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'existe sauf dans la tête des gens. Et c'est à partir d'ailleurs de cette critique qui sera faite à Mesmer. Mesmer qui était en succès phénoménal à Paris et qui est banni très 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 vite. Ce sont ses disciples, et en particulier le marquis de Puységur, toute l'histoire des débuts du somnambulisme artificiel, qui vont reprendre à leur actif cette affaire. Et alors là, qui vont la basculer effectivement du côté de l'art.
L'exposition Hypnose propose une plongée dans les profondeurs de la psyché, en compagnie de plusieurs artistes. Ça, on l'a dit, Pascal Rousseau, mais plusieurs artistes, mais surtout différentes époques, différents univers, de Gustave Courbet à Catherine Contour, hein, c'est-à-dire une chorégraphe contemporaine qui est connue pour utiliser l'hypnose afin de mettre ses danseurs en transe et libérer, dit-elle, le processus de création. Donc des peintres romantiques à la danse contemporaine, en passant par les surréalistes. Bien sûr, André Breton avait un grand intérêt pour la psychanalyse. Marcel Duchamp, Auguste Rodin, Salvatore Dalí, les écrivains de la Beat Generation, les psychédéliques, le cinéma de Fritz Lang, et tout ça, ça suit aussi des évolutions scientifiques autour de l'hypnose.
Bah, l'hypnose, comme d'ailleurs Mesmer, va avoir ses heures de succès dans la médecine et puis immédiatement son bannissement. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'il y a bannissement dans la culture officielle, et en particulier la culture scientifique, il y a transfert vers la culture populaire.
Ouais, donc l'art.
La culture populaire et l'art. Et là, ce qui est assez frappant, par exemple, c'est que quand on regarde un peu plus près cette histoire, et en particulier en s'arrêtant sur ce que j'appelle l'âge d'or de l'hypnose médicale, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, autour de Charcot, le psychiatre Charcot à la Salpêtrière, qui est en fait intimement convaincu que l'hypnose est le moyen de guérison sur des sujets particuliers, les hystériques, et donc les hystériques, évidemment, des sujets qui sont le sujet de l'expression. Tous les artistes vont s'emparer de cette question, l'expressionnisme est déjà là, et évidemment, on va en fait voir dans cette hypnose le lieu de la révélation d'une performance, des jeunes femmes, par exemple, comme Lina Deferkel, qui passait sur toutes les scènes de l'époque, et qui était considérée comme une jeune femme tout à fait ordinaire, qui sous hypnose devient Sarah Bernhardt. C'est vraiment l'idée que l'hypnose, en allant en quelque sorte plonger le sujet dans des états seconds, et en particulier dans des états plus profonds, irait retrouver justement des ressources d'inventivité, de créativité. C'est un des pôles qui m'intéresse dans cette exposition, de voir en quoi est-ce que l'hypnose immédiatement est apparue comme un lieu de fertilisation de l'invention artistique.
Comment répondre à cette question? C'est vrai, que dit, que raconte, que reflète cet intérêt des artistes, plasticiens, musiciens ou danseurs pour les modes de transmission de l'émotion sous état modifié de conscience, Pascal Rousseau?
Tout ça apparaît très tôt, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs choses qui sont en jeu. La première, c'est l'invention. C'est l'invention d'un vocabulaire nouveau. Alors, dans l'expo, par exemple, très très vite, dans la deuxième salle, par exemple, qui est consacrée au romantisme du premier 19e siècle, je fais un petit focus sur un artiste assez peu connu, alors qu'il l'était beaucoup à l'époque, Isabelle Théophile Bras, artiste officiel, sculpteur, vraiment ce qu'on peut appeler d'artiste traditionnel, prix de Rome et autres. Et puis dans une révélation somnambulique, il est pris en hypnose par sa propre femme, révèle une seconde personnalité qui là va lui permettre de crayonner. Il ne sculpte plus, il crayonne, et il crayonne surtout de manière extrêmement moderne, c'est-à-dire qu'il fait un vocabulaire qui anticipe sur ce que l'on voit aujourd'hui comme de l'abstraction pure, en fait une sorte d'écriture automatique qui est d'une modernité que les surréalistes bien évidemment regarderont. Et moi ce qui m'intéresse c'est cela, c'est ce dédoublement, c'est-à-dire que l'hypnose immédiatement est perçu comme non seulement un lieu de ressources, une sorte de puisard dans lequel on va aller chercher des formes, des inventions, mais surtout aussi la possibilité de se réinventer soi-même pour aller justement réinventer des nouvelles formes. Dans le cas de Théophile Bras, ce qui est passionnant, c'est qu'il est très très conscient que ce qu'il fait là est l'art du futur. C'est-à-dire qu'il invente, il a conscience que c'est l'art du futur et que ses contemporains seraient pas dans la possibilité même de lire et de regarder cette œuvre, ce qui fait qu'il donne d'ailleurs tout cela à la bibliothèque de Douai. Tout ça est conservé comme un secret, en quelque sorte, à révéler plus tard pour ceux qui seraient possiblement ouverts à ce nouveau vocabulaire. On en présente 8, je suis ravi, puisque c'est des dessins magnifiques.
Pourquoi vous avez choisi, Pascal Rousseau, une scénographie qui privilégie plutôt la chronologie, c'est-à-dire partir de la fin du 18e pour arriver à aujourd'hui?
Alors c'est plus compliqué que ça, puisque l'expo en fait se joue en deux temps. Il y a donc 500 mètres carrés à peu près dans l'extension contemporaine du musée d'art de Nantes. Alors là, c'est effectivement une enfilade de pièces, qui est une enfilade chronologique qui part de Mesmer, donc 1780, jusqu'à la période la plus contemporaine, passant par la période justement du passage du siècle, Charcot, le surréalisme, le psychédélisme et autres, on l'a évoqué à l'instant en ouverture. Mais cette exposition, ça dose sur cette exposition une autre exposition, une seconde exposition, qui se passe donc à la Chapelle de l'Oratoire, qui est un lieu que connaissent bien les Nantais, qui est une extension du musée, c'est une ancienne... une église, disons-le, parce que c'est quand même un très très beau volume, une église baroque, qui est reconvertie en espace d'art. Et là a lieu une installation spécifiquement créée à cette occasion, entièrement nouvelle, d'un artiste formidable qui s'appelle Tony Osler. C'est un artiste américain, un grand pionnier de l'art multimédia immersif. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend en fait tous les imaginaires qu'on a drainés. On reverra Mesmer, on reverra le lit de Charcot, on reverra Caligari et le cinéma expressionniste, qui n'est que un cinéma d'hypnose. Et le tout dans un tout autre ordre, bien évidemment, qui est un ordre en fait de celui qui est en fait celui de l'écran, bien évidemment.
Il y a d'ailleurs un iPhone. C'est la culture numérique là.
C'est ça. C'est-à-dire l'idée, c'est que on rentre là dans un autre espace-temps et où tout se culbute et où l'on peut, de manière beaucoup plus expérientielle, être en définitive dans cet état d'hypnose. J'ai envie de dire que le parcours historique aura déjà permis de créer une petite induction, puisqu'il y a quand même pas mal de pièces qui jouent avec cela, qui sont des dispositifs d'hypnotisation, des spirales, Marcel Duchamp et autres. Mais quand on rentrera dans la chapelle, j'ai envie de dire que le sujet est préparé.
Pascal Rousseau, on va déambuler avec vous dans cette exposition Hypnose au Musée d'Art de Nantes. Mais tout d'abord, je voulais vous poser cette question, peut-être d'ordre personnel, mais avez-vous eu recours à l'hypnose dans votre vie?
Oui.
Pour arrêter la cigarette ou pour
alors,
autre chose?
Je n'ai jamais fumé, donc je n'ai pas eu à faire appel à l'hypnothérapie pour arrêter de fumer. Non, je l'ai fait par intérêt bien évidemment, puisque comme je m'intéressais depuis un petit moment quand même à ce sujet, il était clair que je ne pouvais pas, m'y intéresser sans l'avoir expérimenté. Donc très très concrètement, sans dévoiler quoi que ce soit,
vous pouvez dévoiler ce que vous voulez. Hein.
J'ai fait 4 séances chez un hypnothérapeute, un disciple de Roustan, de François Roustan, qui a été le grand réintroducteur de l'hypnose en France à partir justement d'une sorte de déplacement de la psychanalyse. Donc 4 séances qui m'ont suffi, je dois le dire, pour être en tout cas familiarisé un petit peu avec l'expérience, avec l'outil, son processus.
Et d'être convaincu aussi par cette science, diriez-vous que c'est une science?
Non, bien sûr que non, tout comme la psychanalyse ne l'est pas d'ailleurs, donc l'hypnose encore moins, mais en revanche c'est une technique. Et moi ce qui me fascine en revanche, c'est l'écart abyssal qu'il y a entre la facilité de la technique. C'est très simple. En général, quand on va chez un hypnothérapeute, on s'installe dans un fauteuil et l'idée, c'est de se focaliser. C'est la concentration. Il ne faut pas être dispersé, il faut se focaliser. Donc en général, c'est votre main est contre le bras du fauteuil et ce contact vous intéresse et vous vous concentrez sur ce contact. Ce qui est le premier moment d'induction qui très très vite emmène vers une petite transe. Et ensuite, le second temps, qui est un temps en général du déplacement, la délocalisation. Vous allez dans une forêt, vous êtes proche de la mer, un lieu qui vous est intéressant, un biotope dans lequel vous vous retrouvez, une sorte de confort. Et c'est ce déplacement qui est intéressant. Moi, ce qui m'intrigue, je dois dire beaucoup, c'est la facilité effarante du dispositif. Ça peut aussi des petites techniques de fixation d'un point lumineux et autres. Et le résultat, qui est quand même assez efficace. Sur des gens qui seraient plus ou moins en résistance, moi je ne l'étais pas puisque je m'intéressais à ces questions, donc je ne suis pas du tout en résistance, je suis très suggestionnable, et je l'ai été encore plus d'ailleurs quand j'ai continué en définitive à essayer d'expérimenter cette technique avec une chorégraphe dont on a parlé à l'instant, Catherine Contour, qui est une danseuse, chorégraphe, qui s'intéresse beaucoup à ce qu'elle appelle l'outil hypnotique pour la danse, mais qui pour cela, donc évidemment, s'est familiarisée avec la technique, elle la maîtrise parfaitement, et j'ai fait plusieurs séances avec elle, où d'ailleurs je me suis révélé un grand danseur.
France Culture, le réveil culturel, Tofik Hakem.
Hypnose, l'exposition qui a lieu en ce moment et jusqu'au 31 janvier à Nantes au musée d'art, c'est un peu l'histoire de l'hypnotisme dans l'art, d'une manière d'ailleurs consciente ou inconsciente, hein. Peinture, sculpture, gravure, photo, film, art visuel et vivant, puisqu'il y a de la danse, de la musique, de l'écriture, et puis l'installation immersive dans la chapelle de l'oratoire juste à côté. Pascal Rousseau, est-ce qu'on peut parler d'un âge d'or de l'hypnose dans l'art? Est-ce que pour vous c'est plutôt avec les surréalistes ou moi je dois vous avouer que c'est plutôt l'art optique, c'est-à-dire l'art psychédélique des années 60, hein, avec la littérature mais aussi les représentations qui sont très très présentes d'ailleurs dans cette expo qui me plaisent le plus. Mais est-ce qu'on peut parler d'un mouvement artistique et d'un qui correspondent à un âge d'or de l'hypnose et donc de l'hypnose dans l'art, bien sûr?
Je pense qu'il y a deux temps, enfin qui sont presque les mêmes d'ailleurs. Pour moi, donc bien sûr le psychédélisme en fait grandement partie, mais j'ai envie de dire que le psychédélisme a cherché d'autres moyens d'entrer dans la transe. L'hypnose est une transe parmi d'autres. La méditation peut en être une. L'usage des psychotropes qui a été plutôt le moyen accélérateur de la génération psychédélique. Pour moi, je remonterai le curseur chronologique un tout petit peu avant, puisque je pense que l'âge d'or, c'est les années 1890-1900 en fait, qui correspond au moment Charcot, au moment où Charcot donc fait entrer l'hypnose à nouveau dans le champ de la médecine, à nouveau sur des sujets très particuliers, les hystériques, et autour de cela va naître une iconographie, j'ai envie de dire, abondante en fait. Les artistes vont s'engouffrer dans cette brèche. Alors qu'est-ce qui m'intéresse, c'est justement ce transfert en fait du champ médical, hein, donc des expérimentations sur des sujets dans un hôpital psychiatrique, c'est la Salpêtrière, ça peut être aussi la Charité à côté, mais très très vite évidemment parce qu'il y a des images, et en particulier dans la culture populaire, hein, très très vite relais, puisqu'il y a un vrai débat autour de cette hypnose dont on cherche à comprendre et le mécanisme et surtout jusqu'où il peut aller. L'hypnose devient vraiment un vrai sujet, un vrai motif même, dont s'emparent les artistes. Le grand moment de tout cela, ça reste effectivement les années 1890-1900. Avec un point d'acmé qui est celui pour moi de la sécession viennoise. C'est-à-dire en fait toute la modernité viennoise, j'ai envie de dire qu'elle est moins freudienne que charcotienne.
Ah bah tiens, mais si on parlait de Freud vis-à-vis de l'hypnose, c'est quoi sa position?
Alors sa position, elle est double. Elle aura d'abord été une position de passion, il faut le dire. Il a fait le voyage à Paris pour voir Charcot à la Salpêtrière. Il s'est passionné pour l'hypnose. Il est allé voir ensuite le compétiteur de Charcot, qui était le professeur Bernheim à Nancy, qui contrairement à Charcot, qui croyait que l'hypnose ne fonctionnait que sur des sujets particuliers, les hystériques, était intimement convaincu, lui, Bernheim, que tout sujet était suggestionnable. Il d'ailleurs proposait d'abandonner le terme d'hypnose et de parler plutôt de théorie de la suggestion, avec tout un développement d'ailleurs d'une théorie artistique sur la suggestion. Mais quand on regarde par exemple Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, il y a un Oskar Kokoschka dans l'exposition, Egon Schiele, j'ai envie de dire que toute la grande modernité viennoise, ce n'est que cela, hein. C'est-à-dire des corps contracturés, des catalepsies, des corps sous hypnose qui sont en définitive les corps de l'expressivité, le corps qui devient la surface d'expression par l'hypnose, justement l'état second, l'état modifié de conscience. Science révèle en quelque sorte une capacité d'expressivité inédite, et alors l'époque s'engouffre dans cette brèche. Pour donner un autre exemple, hein, qu'on oublie souvent et qui est un petit exemple que j'essaie de développer en particulier dans le catalogue, c'est l'art nouveau. Alphonse Mucha, le grand affichiste de l'art nouveau, utilisait, on le sait, j'en montre quelques exemples, des sujets mis sous hypnose, la fameuse petite Lina en particulier, qui était une jeune femme tout à fait ordinaire et qui, dès qu'elle était mise sous hypnose, devenait Sarah Bernhardt.
C'est incroyable.
Donc, je pense que ce moment-là est un moment assez important dans la culture visuelle, c'est abondant. Il y a un second moment, moi, qui m'intéresse et qui est aussi une des options de cette exposition, c'est de montrer comment tout de suite les nouveaux médias de l'art s'emparent de cette question. Et j'ai envie de dire que celui qui va s'en emparer le plus et le plus naturellement, c'est le cinéma. Le cinéma apparaît à une période qui est celle plutôt du déclin de l'hypnose. Charcot devient un petit peu moins en mode en 1895. L'hypnose se déplace dans les cabarets, les cafcons, les danseuses hystériques, mais aussi dans le cinéma des attractions des premiers temps. Méliès fait une pièce avec le baquet de Mesmer, avec un magnétiseur, et puis surtout, quelques années plus tard, le cinéma expressionniste allemand en particulier, ce n'est que cela. Caligari, Mabuse, ce ne sont que des grands magnétiseurs, en général assez malfaisants. et qui nous parle de ce qu'est le cinéma, c'est-à-dire on s'installe dans une salle confortable, on est face à un crépitement, on est dans un état d'hypnose.
Merci beaucoup Pascal Rousseau d'être passé nous parler de cette exposition qu'on recommande vivement, Hypnose. C'est bien sûr à Nantes, c'est le musée d'art de Nantes et c'est jusqu'au 31 janvier.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Ou en passant par l'application de Radio France. Cette émission a été préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui à la technique Mathieu Leroux. Passez une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure ou au même endroit si vous passez par le site de France Culture. Bonne journée.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Un éclairage quotidien, les enjeux internationaux sur France Culture. Julie Gacon.
Chaque matin, un éclairage sur un fait de l'actualité internationale, le monde exploré à toutes ses échelles, du local au global. 10 minutes avec un chercheur, une chercheuse, pour renouveler notre regard sur le monde, resituer un événement dans sa perspective historique, évaluer sa portée et en imaginer l'avenir.
Les enjeux internationaux, de lundi à vendredi à 6h45 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'attaque de Vienne a été menée par un terroriste islamiste. Le ministre autrichien de l'Intérieur le décrit à l'instant comme tel. Il indique que le suspect était lourdement armé hier soir et équipé d'une ceinture explosive. 3 personnes ont été tuées à Vienne, dans la capitale. Première réaction à suivre dès le début de ce journal. Dans cette édition, nous irons aussi aux États-Unis à quelques heures de la présidentielle. Dernier meeting cette nuit avec les supporters des deux camps, vous l'entendrez. Une élection sous épidémie de Covid-19, nous verrons aussi les conséquences que cette épidémie a eues sur l'élection. Zoom enfin sur les librairies en France qui veulent rouvrir en plein confinement. La question des biens essentiels se pose. Une attaque en Autriche a fait au moins 3 morts selon le dernier bilan matinal donné il y a quelques minutes à peine. Attaque qui a eu lieu hier soir dans le centre historique de Vienne, la capitale autrichienne. L'un des assaillants aurait été tué. C'est un sympathisant du groupe État islamique selon le ministre de l'Intérieur autrichien ce matin. Un autre assaillant pourrait être en fuite encore ce matin. Le chancelier autrichien Sébastien Kurz parle d'une répugnante attaque terroriste d'une gravité sans précédent dans le pays ces dernières années. Réaction dans le monde, évidemment, et particulièrement en Europe depuis hier. Emmanuel Macron a exprimé sa solidarité envers le peuple autrichien après ces événements tragiques. Je vous propose ce matin d'écouter Frédéric Petit, député MoDem de la 7e circonscription des Français établis à l'étranger. Il fait, lui, un parallèle avec les attentats du 13 novembre, notamment au Bataclan.
Quand on sait le quartier, quand on connaît le quartier de Vienne, où ils ont tapé, ça ressemble plutôt au café qui avait été attaqué à côté du Bataclan. C'est une attaque sur une manière de vivre, une manière de raconter le monde. Donc, il faut pas se désolidariser. Ça concerne la France, ça concerne l'Europe, ça concerne le vivre ensemble. Et ce que l'Europe a à dire, elle a à le dire au monde. C'est aussi notable de remarquer que l'Autriche nous avait soutenu assez vite dans l'attentat horrible dont nous avons été victimes. Ça ne concerne pas que la France, que ça concerne l'Europe.
Des propos recueillis par Julien Langlais hier soir et nous en saurons plus évidemment dans le journal de 7h tout à l'heure sur France Culture. Nous irons à Vienne. À l'instant, Donald Trump, président des États-Unis, demande à ce que cessent les attaques du mal après cet attentat à Vienne. Donald Trump qui vivait cette nuit ses dernières heures de campagne électorale avant la présidentielle ce mardi aux États-Unis. Il était dans le Michigan devant ses supporters. Notre envoyé spécial a rencontré 2 de ses supporters, 2 Français élus du Rassemblement national qui ont fait le déplacement jusqu'aux États-Unis. Le sénateur des Bouches-du-Rhône et conseiller municipal à Marseille, Stéphane Ravier, accompagné du député européen Jérôme Rivière. Tous les deux voient dans le président américain un exemple à suivre, Maxime Tellier.
Il ne portait pas la casquette rouge « Make America Great Again », mais c'était tout comme. Stéphane Ravier, notamment, s'est dit impressionné.
Écoutez, moi, je fais ma découverte de l'Amérique. C'est la première fois que je viens aux États-Unis. Et je viens aussi pour observer cette campagne électorale. Et j'y observe déjà, j'y découvre un enthousiasme populaire avec des idées qui correspondent dans de nombreux points à ce que je souhaite pour mon pays.
Et l'élu marseillais se dit convaincu que Trump peut gagner un second mandat. Les deux élus français sont d'ailleurs venus prendre des leçons, invités par un élu conservateur du Congrès, Paul Gosar, représentant de l'Arizona. Ils ont rencontré également Steve Bannon, Rudolph Giuliani et passent la soirée électorale à Washington. Jérôme Rivière croit en Trump, lui aussi. Car il partage ses idées.
Il place les Américains d'abord, nous on place les Français d'abord. Il est patriotique et il est en train de faire revenir des emplois aux États-Unis comme on souhaite faire revenir demain des emplois en France. On est venu pour observer et regarder cet enthousiasme et prendre quelques idées pour la présidentielle à venir. Il faudra qu'on soit aussi enthousiaste qu'il a réussi à l'être.
Et aucune critique sur le président américain, aucune réserve, sa politique économique, sa politique sanitaire, ils achètent tout. Ils le disent sans détour. D'ailleurs, pour eux, la France s'en sortira mieux si Joe Biden n'est pas élu président.
Maxime Tellier pour France Culture, et je précise que Joe Biden est élu cette nuit en Pennsylvanie. Le candidat démocrate a appelé les électeurs à reprendre le contrôle de la démocratie. Une campagne aux États-Unis marquée par la pandémie de Covid-19. Le virus pourrait bien venir troubler les plans des uns et des autres. C'est un reportage sur place de Rosalie Lafarge.
Les chiffres quotidiens sont alarmants. Le ton est grave chez le gouverneur du Wisconsin, mais Tony Evers, démocrate, insiste, le virus ne doit pas freiner la participation. Un appel à la mobilisation relayé par Amy Penke, jeune supportrice de Joe Biden.
On est tous très inquiets avec le Covid, mais je crois que ça ne doit pas nous empêcher d'aller voter. Et j'ai l'impression que tout le monde, ou presque, prend cette élection très au sérieux. On a tous envie de se faire entendre.
On sait aussi ici qu'on est dans un état clé, qu'il a suffi de quelques voix il y a 4 ans pour en offrir les 10 grands électeurs à Donald Trump, et ses soutiens ont bien l'intention de lui laisser les clés de la Maison Blanche.
Évidemment, tous les votes sont importants, mais dans un swing state, ça peut faire basculer l'élection, donc là c'est crucial.
Et paradoxalement, c'est bien Donald Trump que le virus pourrait désavantager. C'est en tout cas l'analyse d'Eleanor Neff Powell, professeure de sciences politiques à l'université de Wisconsin-Madison.
Les gens tombent malades dans tout l'État, certains sont en quarantaine. Les agents de bureau de vote risquent de ne pas se présenter parce que ce sont souvent des retraités, un public à risque. Or, le président Trump a vraiment besoin de ces votes du D-Day. Si les électeurs hésitent davantage à venir, ça pourrait lui créer de gros problèmes.
Alors que les démocrates utilisent volontiers le vote anticipé ou le vote par correspondance, on dit effectivement les républicains plus enclins à voter en personne le jour J.
Rosalie Lafarge, que nous retrouverons à 7h25 dans les matins de France Culture pour le reportage de la rédaction. Il est consacré ce mardi aux tensions raciales aux États-Unis. Rencontre avec l'électorat afro-américain dans le Wisconsin. Le Covid-19 en France, là aussi les chiffres inquiètent. Le nombre de morts ces dernières 24 heures a dépassé les 400. Pendant ce temps, plus de 420 patients ont été admis en réanimation, occupant au total la moitié des lits de réa dans les hôpitaux. Le gouvernement souhaite donc que le confinement du moment soit respecté par les Français. Un décret concernant les produits de première nécessité dans les grands magasins doit être publié ce matin. Mais déjà, et nous en avons déjà parlé, les librairies protestent. Elles sont soutenues ces librairies par de nombreux maires en France. Même le syndicat de la librairie française demande l'ouverture des magasins. C'est un changement de ton, Antoine Maret.
En mars dernier, alors que Bruno Le Maire se disait prêt à revenir sur la fermeture des librairies, le syndicat lui accusait une fin de non-recevoir, une réouverture prématurée serait dangereuse. Inversion des rôles désormais, c'est le gouvernement qui s'oppose à l'ouverture des librairies et le syndicat qui la réclame. Le délégué général du syndicat de la librairie française, Guillaume Husson, explique ce changement par l'évolution des conditions sanitaires.
En mars, on manquait de masques, on manquait de gel, on manquait de protocoles sanitaires en librairie et on manquait surtout d'habitude face à ce virus. On ne savait pas comment vivre avec le virus. Aujourd'hui, 6 mois après, ces choses-là ont considérablement changé. Les libraires ont fait la preuve que dans leurs magasins, ils étaient très prudents, très précautionneux. On considère aujourd'hui qu'on peut travailler avec le gouvernement pour trouver les bonnes modalités pour réouvrir les librairies.
Mais la raison n'est pas seulement sanitaire, elle est aussi économique. Les librairies sont un secteur déjà fragile, concurrencé notamment par Amazon. Et un deuxième confinement prolongé serait pour beaucoup de professionnels une catastrophe, surtout à cette période.
Les 4 derniers mois de l'année représentent pour les libraires plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Donc on est dans une période qui, sur le plan économique, a un enjeu encore plus lourd qu'au printemps.
Ce que n'ont pas apprécié les libraires par-dessus tout, c'est que les rayons livres de la FNAC ne soient pas dans un premier temps concernés par ces fermetures, alors qu'en mars dernier, le premier libraire de France avait dû baisser le rideau.
Et plus largement, ce matin, pourquoi les livres ne sont-ils pas considérés comme des produits de première nécessité? Qu'est-ce qu'un produit essentiel? Bercy a donné sa définition en faisant des choix, au grand étonnement d'Alain Bazeau. Le président de l'association de consommateurs UFC Que Choisir était hier soir l'invité du journal de 22h de France Culture. Il dénonce plusieurs interdictions.
C'est une vision extrêmement totalitaire de ce qui est bien pour les gens. Vous vous rendez compte, on va définir à Bercy que manger, évidemment, c'est un bien essentiel, on ne peut pas vivre sans manger. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui ont besoin de très peu consommer d'alimentation, et en revanche, qui se nourrissent beaucoup de livres, qui vont chez leur libraire. J'ai discuté avec une dame ce week-end, là, j'étais en province. Une dame, ça faisait 2 mois qu'elle n'avait pas été chez le coiffeur, elle comptait y aller, elle n'a pas pu y aller, mais elle était complètement bouleversée, de se dire, vous rendez compte, j'ai 75 ans, regardez à quoi je ressemble, il faut que j'attende un mois pour avoir une coupe et puis une couleur. Et ça, pour elle, c'était essentiel. Mais non, c'est le monde selon Bercy. Et on voit bien la culture, tous les débats qu'il y a autour, de savoir si la nourriture culturelle, elle est essentielle ou elle n'est pas essentielle.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Nous l'apprenons à l'instant, Alassane Ouattara a été réélu pour un 3e mandat à la présidence de la Côte d'Ivoire. La commission électorale évoque plus de 94% des voix en sa faveur. Rappelons tout de même que le scrutin avait été boycotté par l'opposition et a provoqué des violences dans le pays. Nous y reviendrons à 6h45 dans 5 minutes avec les enjeux internationaux de Julie Gacon. Quelques mots de météo maintenant avec un temps qui sera marqué encore par la pluie ce mardi, ce matin, du sud-ouest jusqu'au nord-est, tandis qu'ailleurs le ciel sera variable. Comptez ce matin 9 degrés à Lille, 10 à Paris, 17 à Marseille. Il est 6h40, c'est l'heure du Journal des idées. Avec vous, Jacques Meunier, bonjour. Jacques Meunier, vous êtes avec nous ce matin, Jacques, pour le journal des idées à distance. On vous entend, Jacques. Alors, vous êtes confiné, un confinement qui invite à la lecture, Jacques. Malgré la fermeture des librairies, la plupart d'entre elles assurent des permanences pour y récupérer les livres commandés.
Eh oui. Et la dernière livraison de la NRF, la Nouvelle Revue Française, publie un dossier sur la littérature aujourd'hui au Centre des Humanités. Cynthia Fleury signe un texte sur la littérature contre le ressentiment. Il y a tant de choses, écrit-elle, que la littérature enseigne à la philosophie politique et à la psychanalyse, l'étendue du présent, la complexité du réel, la fonction symbolique, la dialectique du pur et de l'impur, l'art de sublimer. C'est ce que la philosophe désigne comme le défi du faire œuvre par la lecture ou l'écriture face au fracas du réel. Faut le souligner, dans cette opération, lecture et écriture sont les deux faces d'une même forme de sublimation par l'œuvre d'art. Dans notre société non seulement fracturée, mais aussi irréconciliée, où chacun estime qu'un tribut lui est dû, d'où le ressentiment qui se répand comme une pandémie et qui est l'objet de son dernier livre, Sigil amer, guérir du ressentiment, publié chez Gallimard. Dans le grand entretien accordé à Nicolas Dutemps pour l'hebdomadaire Marianne, à l'occasion de la parution de L'homme aux trois lettres chez Grasset, Pascal Quignard évoque également l'art de lire, un sentiment océanique, une espèce d'état de surprise. Il y a quelque chose dans la lecture qui n'a pas de fin ni d'objet. De même, lorsqu'on aime, on se métamorphose face à l'altérité de l'autre, l'inconnu prend la main. L'écrivain, là aussi, fait le parallèle entre lecture et écriture dans le creuset de la langue, la sienne en l'occurrence, une langue qui n'est pas actuelle, qui est comme traduite d'elle-même par tout ce qui la déborde, le latin, le grec. J'essaie de trouver une espèce d'effet d'arrière-monde qui l'approfondirait, explique-t-il, d'où la quête d'une langue qui traduirait sans cesse d'autres langues, d'autres sensations, d'autres sens, pour essayer de les faire revenir. La traduction vient de nous offrir le monument d'un auteur espagnol singulier et prolifique, Ramón Gómez de la Serna. Son autobiographie, parue en 1948 sous le titre intraduisible « Auto Moribundia », publiée chez Quai Voltaire. Catherine Vasseur, sa traductrice, évoque dans Le Monde des Livres une façon de reconsidérer sa vie, non depuis l'outre-tombe à la Chateaubriand, mais depuis une existence travaillée par le néant dès la naissance. Et Pablo Neruda écrit après sa mort en 1963, toute son œuvre incarne sa propre agonie. Malgré ses allures égrenées, elle est solidement assemblée par la clarté spectrale de l'inventaire. Car c'est bien une sorte d'inventaire à la Prévert que l'ensemble de textes brefs qu'il a rassemblés dans ses Greguerias, l'une de ses œuvres les plus marquantes, par exemple l'horloge picore, le maïs du temps, ou encore claquer une porte, c'est coincer les doigts du silence. Dans le supplément Next de Libération, Philippe Lançon estime que traduire Greguerias n'est pas plus simple que de traduire Auto Moribundia. Valérie Larbeau avait choisi Criailleri, et de fait on entend Griterios dans Greguerias, mais aussi quelque chose de grégaire, agglomérat instinctif et condensé d'humour, de métaphores et de jeux de mots. L'autobiographie lève un coin du voile sur l'invention du genre littéraire si caractéristique de l'auteur paratactique, évoquant un souvenir de l'Arnaud à Florence, dont les deux berges lui semblaient disposées à l'envers. Il s'interroge sur cette perturbation de la stabilité des rives. C'était une greguería, et je suis allé vérifier dans le dictionnaire. En Espagne, les greguerías seraient faites d'une large phrase, d'un feston de devises, d'une contexture proverbiale ou grave, l'acceptation de l'instantané, écrit-il. J'exultais du chahut et de la volée d'étincelles de ce nouveau genre. Ramón Gómez de la Serna était l'animateur excentrique et joyeux de la tertulia du Café Pombo, au lieu de la vie littéraire et artistique de Madrid avant la guerre civile. Mais il était également familier des réunions savantes de la Revista de Occidente, la revue de José Ortega Gasset. Dans son autobiographie, il raconte l'arrivée de Miguel de Unamuno, à l'image de ses évêques, auxquels le peintre place une cathédrale dans la main, comme si c'était une mitre. Il apportait de Salamanque l'université, le palais de Monterrey, le rectorat et sa pierre éclairée d'aube de farine blanche. (rire) 6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la question foncière reste cruciale pour comprendre les violences d'avant l'élection.
Oui, Alassane Ouattara a été confirmé il y a une demi-heure pour un troisième mandat. La commission électorale annonce plus de 94% des voix pour le président sortant qui a passé outre la constitution pour se représenter. On verra ce que dit de ces résultats l'opposition qui a boycotté les urnes samedi et promis de former un gouvernement de transition au plus vite. Depuis la fin du scrutin, mais aussi et surtout pendant la campagne, se sont multipliés les incidents parfois mortels. On a même redouté des violences similaires à celles de 2010, en pleine crise politique entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. À l'époque, on avait beaucoup expliqué combien la question foncière était fondamentale pour comprendre ces violences. 10 ans plus tard, on n'en parle plus du tout. Est-ce à dire qu'elle a été réglée? Il est 5h46 à Abidjan, où vous êtes, Léo Montaz. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le son est très mauvais. On va essayer de rétablir la liaison téléphonique. Vous êtes donc à distance à Abidjan. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lille, actuellement en mission de terrain en Côte d'Ivoire. La campagne électorale, elle a été marquée par des violences, beaucoup redoutées, un réveil des violences tel que le pays en avait connu en 2010. Si on devait faire une carte de ces affrontements qui ont précédé l'élection, affrontements présentés comme politiques entre militants, est-ce qu'elle correspondrait à peu près à la carte des conflits fonciers?
Alors, c'est un peu difficile à dire, car en réalité, des conflits fonciers, il y en a partout dans la zone forestière ivoirienne, et dans toutes les régions agricoles, on connaît ce type de conflit. Cependant, certaines des zones, effectivement, qui ont été le cœur là, de l'opposition, et je pense en particulier à la région de Gagnoa ou à celle de Dabou, sont des zones dans lesquelles il y a bien souvent des conflits fonciers entre communautés autochtones et halogènes. En revanche, on voit aussi apparaître d'autres régions, telles que Yamoussoukro ou Bongouanou, où ces conflits s'étaient moins exprimés jusqu'à maintenant.
Vous avez tout de suite évoqué la question centrale, en fait, au cœur de cette question foncière, c'est les conflits entre ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les étrangers, même s'ils ne sont pas toujours nés hors de Côte d'Ivoire, et les halogènes. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, effectivement, en Côte d'Ivoire, il y a ce vocabulaire où on désigne comme étranger, en fait, toute personne qui n'est pas issue directement de l'ethnie locale ou de la région. Ce qui fait donc qu'une large partie des populations de la Côte d'Ivoire sont, pour les autochtones d'une région, donc des étrangers. Et en fait, ce vocabulaire s'est renforcé avec l'émigration des populations du nord de la Côte d'Ivoire, qui sont des ethnies, en fait, qui sont à cheval sur la Côte d'Ivoire et sur les pays frontaliers, notamment le Mali, le Burkina Faso. Et donc il y a toujours de la part des populations autochtones comme un doute en fait sur le fait que ces populations soient bien et belles ivoiriennes.
Alors je dois juste expliquer en quelques mots, nous excuser auprès des auditeurs de la qualité de la liaison téléphonique. On a eu beaucoup de mal à vous joindre ce matin, donc nous avons dû vous appeler en Bluetooth. Mais on vous entend, Léo Montaz. Ces étrangers, quand ils arrivent dans un village, qu'ils veulent acheter une terre agricole, des modalités d'installation se mettent en place, entrent en vigueur entre ces étrangers et ceux à qui ils achètent les terres. Comment ça se passe ?
Alors, oui, en fait, c'est là effectivement la question centrale de ces arrangements qui ont permis l'installation des étrangers dans les régions agraires. Alors, ce qui se passe en général, c'est que lorsque les populations du Nord souhaitent accéder à une terre, ils vont rentrer en contact avec un titulaire foncier, et ils vont pas acheter la terre, comme on pourrait le faire ailleurs dans le monde, mais ils vont en fait créer une relation à long terme que le spécialiste du foncier ivoirien, Jean-Pierre Chauveau, a désigné de tutorat. Et en fait, cette relation, elle consiste en fait pour les étrangers à aider fréquemment toute leur vie, et parfois même leurs descendants vont continuer à le faire, à aider un tuteur autochtone, donc celui qui a accordé le droit d'accès à la terre. Et grâce à cette relation, les tuteurs autochtones ont pu s'enrichir et ont pu aussi, par exemple, scolariser leurs enfants dans les années 60, 70, 80, ce qui a contribué donc aussi à l'émancipation d'une partie de la population du Sud via la scolarisation. Et c'est aujourd'hui ces arrangements qui sont remis en question et qui créent effectivement de nombreux conflits fonciers.
C'est un contrat moral qui est fixé pour une durée déterminée, je crois, en tout cas qui se transmet de père en fils, mais jusqu'où, jusqu'à quand, puisque aujourd'hui le problème est aussi, et c'est l'objet le sujet d'un livre que vous allez publier chez Cartala bientôt, Léo Montaz, le problème est que les jeunes qui quittent les villes où ils s'étaient installés parfois pour leurs études ou pour trouver du travail, qui quittent les villes pour rentrer au village, arrivent et disent « ces terres sont à moi », revendiquent le droit sur ces terres familiales.
Oui, alors tout à fait. En fait, c'est de là d'où vient le problème. En fait, c'est que jusqu'à la fin des années 70, cette relation a fonctionné parce que, comme je le disais, les autochtones en fait accueillaient les étrangers et en même temps scolarisaient leurs enfants. Donc en fait, il n'y avait pas de tension foncière très forte à ce moment-là, vu que les jeunes autochtones ne restaient pas au village et partaient en ville pour se scolariser, pour accéder à des postes salariés. En fait, les crises économiques de la fin des années 70 et surtout des années 80, et notamment donc les fameux plan d'ajustement structurel qu'il y a eu partout en Afrique, en fait, ont appauvri les populations urbaines et de nombreuses personnes, notamment des personnes qui ont perdu leur emploi et des jeunes déscolarisés, ont décidé de revenir au village et sont donc rentrés en confrontation avec les étrangers auxquels leurs propres parents avaient accordé des terres. Et donc, tout ce modèle d'arrangement foncier est quelque part tombé à l'eau. Il y a des tensions il y a une montée des tensions comme ça dans les années 80-90, et ces tensions ont pris une nouvelle tournure dans les années 90, en fait, avec toutes les politiques dites d'ivoirité, donc ces politiques ethno-nationales qui ont renforcé, en fait, ces tensions ethniques entre le Nord et le Sud.
Une loi sur le domaine foncier avait été votée en 1998 pour régler ces tensions. C'était une loi qui devait délivrer un certificat foncier aux propriétaires des terres. Elle n'a jamais été mise en œuvre.
Alors,
Mais là, elle n'a jamais été mise en œuvre, mais les chiffres de mise en œuvre sont pour le moins extrêmement faibles. Je regardais justement en préparation un rapport de 2018 qui indique qu'en 2018, donc seulement 4% des terres rurales bénéficiaient d'un certificat foncier. Cette loi, en fait, justement, elle est née dans ce contexte de l'ivoirité et elle était censée sécuriser notamment les droits fonciers des autochtones. Elle excluait complètement de l'accès à la propriété des populations étrangères, entendues ici là maintenant comme vraiment non-ivoiriennes, et elle reconnaissait à titre transitoire les droits coutumiers, autrement dit donc plutôt les droits des autochtones. Mais cette loi, donc, il y a eu des tentatives de mise en œuvre, mais qui n'ont pas du tout fonctionné. J'ai moi-même travaillé dans les années 2015-2016 avec des agents du plan foncier rural. Je me rappelle qu'à l'époque, on circulait donc en moto dans les villages de la région de Gagnoa pour essayer de pousser les agriculteurs à certifier leurs terres. Et de manière systématique, l'agent du plan foncier rural se retrouvait devant les chefferies villageoises qui leur expliquaient tous les conflits fonciers en cours. Et c'était strictement impossible de procéder à une quelconque certification.
Pourtant, quant à Hassan Ouattara, donc, dont on vient d'apprendre qu'il était, c'est pas vraiment une surprise, mais qu'il avait été confirmé pour un troisième mandat par la commission électorale avec plus de 94% des voix, ayant outrepassé d'ailleurs la constitution qui, a priori, ne l'autorisait à ce que ne se succèdent que deux mandats. Hassan Ouattara, lors de sa première victoire électorale en 2010-2011, il avait déclaré prioritaire l'application de cette loi. Finalement, il n'en a rien fait. Il avait aussi promis que les massacres de Douékoué dans l'Ouest serait jugé, c'était en 2010, des querelles, des conflits agraires qui avaient abouti à la mort d'un millier de civils sur fond d'affrontements politiques et de tensions ethniques et donc de conflits fonciers. Il n'en a rien fait non plus, c'est-à-dire que les coupables n'ont pas été jugés, rien n'a été fait.
Oui, c'est le grand échec de ces deux mandats, c'est cette fameuse question de la réconciliation. Alors non seulement, oui, comme vous le dites, ce massacre de Douékoué qui a jamais été jugé, et au niveau foncier, en fait, cette loi, l'idée n'était même pas d'appliquer cette loi, elle était surtout d'en faire une nouvelle et de permettre enfin la sécurisation. Il y a eu des consultations qui ont été menées, notamment auprès des agences de développement pour essayer de faire une loi. On a vu à un moment des choses bouger, mais finalement rien ne s'est passé. Et je pense que la raison est très simple, c'est qu'en fait cette question foncière en Côte d'Ivoire, c'est une véritable boîte de Pandore. Et dès qu'on y touche, c'est explosif. Et si le gouvernement ne rentre pas dans ces débats-là, c'est aussi par crainte en fait d'envenimer encore plus la situation entre étrangers et allogènes, étrangers et autochtones.
Et est-ce qu'ils y auraient intérêt, c'est-à-dire est-ce que les politiques auraient un intérêt à utiliser en quelque sorte ces questions foncières? Est-ce que c'est l'occasion pour certains d'expulser des étrangers? Est-ce qu'on a vu cette question manipulée?
Alors, l'intérêt, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à là, mais en fait, c'est compliqué. C'est que, concrètement, le processus de démocratisation en Côte d'Ivoire, dès les années 90, il s'est joué sur l'accaparement par chacun des grands partis politiques de régions et de certaines ethnies. Donc, il y a une alliance, si on veut, de certaines ethnies à certains candidats. Et donc, en fait, ils ont toujours joué sur ces divisions ethniques. En revanche, la question foncière a été très mobilisée dans la fin des années 90 par l'ancien président Bédier, par le président Gbagbo, mais c'est vrai que le président Ouattara en a finalement très peu parlé en dehors de ses campagnes. Et je pense pas qu'ils aient intérêt à le faire parce que si on attise ces questions-là, la Côte d'Ivoire va droit dans le mur concrètement.
Merci beaucoup en tout cas Léo Montez d'avoir été avec nous ce matin. Encore mille excuses auprès des auditeurs pour la qualité de la liaison téléphonique, mais je crois qu'on a quand même entendu le principal et on peut vous lire, ça sera encore plus simple et sans interférence aux éditions Cartala. Votre livre paraît la semaine prochaine, Retour au village, jeunesse au pouvoir en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin depuis Abidjan.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Est-ce qu'il y a un secret qui lie ces deux hommes?
Cahuzac, Lux Lix, Fillon, Benalla.
Mécanique du journalisme, la nouvelle collection de podcasts originaux de France Culture. Dans les coulisses des grands scoops de notre époque, racontés par ceux qui les ont révélés. Un ministre du budget, un compte bancaire à l'étranger non déclaré, enquête, déni, trahison, démission. Mécanique du journalisme, l'affaire Cahuzac par les journalistes Fabrice Arfi et Élise Carlin. Un podcast original de France Culture sur l'appli Radio France.
Sur France Culture, la transition se conjugue au quotidien avec Hervé Gardette.
Réchauffement climatique, épuisement des ressources, érosion de la biodiversité, nous savons tous désormais à quoi nous sommes confrontés. Mais nous ne savons pas toujours quoi faire, ni comment. Pourtant, nos modes de vie sont en train d'être bouleversés par ce basculement. Tous les jours, dans les matins de France Culture à 8h45, je vous livre mes observations, mes réflexions et je vous fais part de mes lectures dans La Transition.
Sur France Culture, La Transition, de lundi à vendredi à 8h45 dans les matins et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Bon, ça fait plaisir d'entendre une voix claire et de voir un visage. Guillaume, nous ne sommes pas gouvernés par Big Brother, nous dites-vous ce matin, mais par Big Mother.
Mais oui, c'est criant depuis la pandémie, nous sommes gouvernés par Big Mother. J'emprunte l'expression au psychiatre Michel Schneider, qui expliquait dans un livre titré de la sorte que nos dirigeants assumaient un rôle qui se situait entre le soin et la contrainte. Crainte infantilisante des citoyens qui devenaient, je le cite, malades de la politique comme certains enfants sont malades de leur mère. Je précise qu'il s'agit là d'un rôle genré et pas sexué. Je suis une très bonne mère juive, Julie, vous savez. D'ailleurs, parmi ces big movers, il y a peu de femmes mais beaucoup de nationalités en revanche. Car l'enjeu, c'est de savoir si nous aurons des cadeaux à Noël. Noël, c'est l'enfance et donc nos politiques nous parlent comme à des enfants. En France, ça donne par exemple Olivier Véran, je le cite, les fêtes de Noël dépendront du comportement des Français, comme si au quatrième jour de confinement, l'un des parents perdait déjà ses nerfs et troquait le calme contre les cadeaux. Si vous êtes sage, vous aurez un Noël. C'est aussi en substance ce que dit le Premier ministre irlandais, Michel Martin. Si nous unissons nos efforts pendant les 6 prochaines semaines, nous aurons l'occasion de célébrer Noël correctement, explique-t-il. Alors toute la question consiste à savoir si nous allons mériter nos cadeaux, Julie, si nous serons punis par le grand méchant Covid, qui va nous obliger à contempler un sapin nu sous lequel il n'y aura rien, une cheminée désertée, et puis je sais pas, du cordon bleu à manger en lieu et place de la dinde, mais vous pouvez remplacer ça par du tofu. Si vous êtes vegan, Big Mother veille donc sur notre santé. Il faut croire que la crise sanitaire suscite des vocations, comme s'il s'agissait de prendre soin de notre santé physique en nous faisant au besoin régresser sur le plan mental à force de remplir des attestations dérogatoires. De toute façon, on va être tellement déboussolé à la fin du confinement que certains appelleront le service d'information du gouvernement pour savoir s'ils ont le droit de sortir. Big Mother is watching you. Elle attend avec son thermomètre et son test antigénique une conception très verticale de la politique qui place les citoyens dans une position horizontale, prêts pour la fessée.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Allez, nous sommes ouverts, nous allons vous proposer l'essentiel et même plus si affinité. Aujourd'hui, on évoque l'université au temps du Covid. Nous serons en compagnie de Jean Chambaz, président de Sorbonne Université, rejoint aux environs de 8h20 par Pascal Dubus, maître de conférence en histoire de l'art moderne à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne.